Bonjour, ce message audio, proposé par l'église Hosanna, a été enregistré en public lors de l'une de nos célébrations. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site sur le www.eglisehosanna.com. Vous pouvez nous contacter par courriel à info@eglisehosanna.com ou nous appeler au 02 62 59 66 15.
Ce message vous est prêché par le pasteur Steve Rivière.
Bonne écoute.
Il est bon d'être dans la présence de Dieu avec vous ce matin. Donc c'est toujours un privilège, frères et sœurs, et un grand honneur que j'ai de vous partager la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est extraordinaire. Amen. Elle est remplie de sagesse, elle est là pour nous édifier, pour nous fortifier. Et j'ai le privilège aussi ce matin donc de continuer la série « Construire un mariage qui dure ». Le cinquième message qui aura pour thème principal les finances. Mais j'aimerais, avant de commencer, je sais que le pasteur Elodie l'a déjà fait, mais j'aimerais renouveler à nouveau les envois, les amours du pasteur Bruno qui se prépare pour nous ce soir. Et donc, je l'ai eu encore, il me disait, s'il te plaît, Steve, insiste auprès du peuple, qu'il puisse réaliser que ce soir, on va mettre le feu, inviter des gens. Comme vous le savez, le format un peu de l'église, c'est qu'on préfère enseigner le matin et laisser plus du temps au Saint-Esprit pour agir le soir. Donc ce soir, si vous avez des amis, des voisins, si vous-même vous avez besoin de prière, si vous vous sentez oppressé, on va prendre du temps pour laisser Dieu agir ce soir, puisque Jésus est le même. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui libère. Et il est bon d'arriver avec foi et attendre à voir ce que Dieu bouge ce soir. Amen. Mais je crois aussi qu'il va bouger aussi ce matin dans les cœurs. Donc regarde ton voisin et dis-lui, es-tu prêt? Vous savez, on espérait peut-être que pour un sujet comme les finances, avoir un invité comme Bill Gates, mais il est pris. Donc il était sur TF1 il y a quelques semaines de ça, mais il n'a pas pu se libérer pour ce matin, donc ce sera sûrement pour une prochaine fois. Mais on a un autre invité qui était plus riche que Bill Gates et qui va nous conseiller ce matin, et il s'appelle le roi Salomon. Et il était plus riche que Bill Gates, et il avait aussi plus de femmes que Bill Gates. Le pasteur Bruno nous avait partagé le Cantique des Cantiques la semaine dernière sur Construire un mariage numéro 4. Et c'est le roi Salomon qui écrit tes dents sont blanches rangées comme des brebis. Et Jérémie s'est inspiré de ce poème. Et ce matin, on va toujours se servir de cet homme de Dieu extraordinaire, le roi Salomon, qui était l'un des plus riches que la terre ait porté et l'un des plus sages que la terre ait porté. Et il va nous enseigner ce matin sur les finances, parce que on peut pas construire un mariage fort sans parler du sujet qu'est les finances. Donc, je sais qu'ici dans ce lieu, encore une fois, il y a des personnes qui sont plus douées que moi pour au sujet des finances, mais je compte sur la grâce de Dieu, surtout sur sa parole, pour nous enseigner à toutes et à tous, pour que nous puissions ressortir de là affermis, renouvelés par la parole de Dieu. Car selon plusieurs magazines, dont le New York Times par exemple, l'argent, c'est l'une des premières sources de conflits dans le mariage. Il y a beaucoup de couples qui divorcent, qui se disputent à cause de l'argent. Donc on ne peut pas construire un mariage fort si on n'arrive pas, en tant que mari et femme, à renouveler notre rapport concernant ce sujet, c'est très important. Pour que le mariage soit fort, il est important pour nous donc d'être renouvelé selon la parole de Dieu. Et avec Salomon ce matin, on va voir 5 points très simples. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais on va voir 5 points très simples qui sont faciles à entendre, peut-être un peu plus dures à pratiquer, comme c'est souvent le cas pour la parole de Dieu. Mais je crois qu'avec la force du Saint-Esprit, on pourra pratiquer cela. Amen. Donc, premier point pour construire un mariage fort, message numéro 5, c'est prendre le temps de noter tout ce qui sort et tout ce qui rentre en termes de finances. Vous savez, souvent, parfois, on n'a pas l'habitude de prendre le temps pour compter les sous qui sortent et les sous qui rentrent. Écoutons ce que dit Proverbe, puisque c'est Salomon qui a écrit les Proverbes. Et le livre des Proverbes est rempli de sagesse. Et on va utiliser pour ces 5 points ce que dit les Proverbes. Donc Proverbe 27, au verset 23, il est écrit « Connais bien chacune de tes brebis, donne des soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni ne couronne éternellement. » En réalité, quand ici Salomon parle des brebis, il ne parle pas dans ce cadre-là des pasteurs. On a tendance à voir ce verset en pensant aux pasteurs. Et c'est vrai qu'il concerne aussi les pasteurs ou un père ou une mère. Parce que le papa et la maman sont aussi le berger de leur famille. Mais ici, il s'adresse en réalité à des businessmen de son époque. À l'époque, avoir des animaux, c'était une entreprise. À l'époque du roi Salomon. Et il dit ici, il parle à ces businessmen de son époque et il leur dit « Connais bien ton business ». Voilà ce qu'il veut dire en réalité. Il est en train de dire « Car l'argent peut disparaître rapidement ». Donc il dit « Connais bien chacune de tes brebis, prends soin de ton troupeau, car la richesse ne dure pas toujours ». Il est en train de dire « Connais en réalité ce que tu fais avec tes sous ». Voilà ce qu'il veut dire ici. Note tout. Prends soin de ton business. Connais combien de brebis tu as. Sois au courant de leur état. Parce que l'argent disparaît facilement. Voilà ce qu'il est en train de dire ici, comme conseil à ces businessmen. Parfois, je crois qu'il nous est arrivé à tous de se dire, je ne sais pas où sont passés mes sous. Tu sais, ce mois-ci, j'ai l'impression que l'argent avait arrivé sur le compte. Et je ne sais pas où est parti l'argent. Ça vous est déjà arrivé, ça, vous ? Je crois que ça arrive à tout le monde, ça. Et en réalité, quand on parle comme ça, ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas de très bons noteurs de où part l'argent. On se dit, t'es, ben, j'avais pourtant, t'es, ben, pourquoi il reste que ça en fin de mois ? Ça vous arrive de dire ça ? Ou sinon, on vous dit, avant la fin de mois arrive, t'es, j'ai plus rien. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise le découvert, en espérant qu'il va recouvrir. Et c'est totalement faux. Le découvert, ce n'est pas un recouvert. Mais comme on note pas, nous arrive à tous à un moment donné de se dire, ben, où sont passés nos sous ? L'ignorance à propos de ce qu'on fait avec l'argent va créer beaucoup de difficultés. L'ignorance même détruit, nous dit la parole de Dieu. Mais l'ignorance plus le crédit facile, c'est un désastre. Souvent, par exemple, aujourd'hui, dans la société de consommation dans laquelle on est, on a beaucoup de crédits faciles. Carte Bourbon Avantage, carte Réunion Avantage, carte Avantage Plus, carte Leclerc, carte Score, ce que tu veux, tu es rempli de cartes, tu ouvres le porte-monnaie, il y a un paquet de cartes, carte de fidélité, il y a un paquet de cartes pour faciliter la consommation. Le problème, c'est que souvent, on utilise ces cartes avec un paquet d'ignorance. On ne connaît pas. Et pour consommer facilement, un conseiller nous dit, ben, prends une carte là, elle est bien ça. Tu prends ça pour faire un crédit ou pour acheter au meuble ou pour aller en voyage. Et l'ignorance avec le crédit facile égale désastre. Parce qu'au bout de quelques temps après, les familles se retrouvent surendettées, les couples se retrouvent sous pression. C'est la guerre à cause du manque de finances. Et nous devons comprendre cela. Proverbe 24, traduit d'une version anglaise au verset 3, nous dit « Une entreprise devient forte par la sagesse, est profitable car elle est toujours au courant des faits. C'est le proverbe qu'on a lu la fois dernière avec le pasteur Bruno qui disait par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Une autre version dit c'est par la sagesse qu'elle devient forte, mais elle devient efficace, profitable, car elle est toujours au courant des faits, de ce qui se passe. C'est le principe du tableau de score. Si vous êtes un coach, si vous regardez un match, l'équipe peut bien se préparer au départ. Mais ce qui est important pendant le match, c'est le score. Si à 40 minutes, une équipe de football qui s'est hyper bien séparée est en train de perdre 3-0, c'est pas qu'elle était forte dans la préparation qui compte, c'est qu'elle est en train de perdre 3-0. Oui ou non? Il faut être au courant, au moment présent, de l'évolution du match. C'est le principe du tableau de score. C'est-à-dire, il faut être au courant. Si je vous dis ce matin, qui parmi vous connaît exactement combien il reste sur son compte et ce que vous allez faire, quelles dépenses vous allez faire avec ce qui vous reste? Pas beaucoup lèveraient la main. Pas beaucoup lèveraient la main. Certains diraient, je pense qu'il me reste, parce qu'il y a ça encore qui doit passer, ça encore qui doit passer. Ah, j'oubliais ça. Et puis je crois que c'est tout. Parce qu'on n'est pas au courant. On ne compte pas bien nos brebis, le business qui nous appartient. Et dans ce premier point, il y a quatre principes à pratiquer. Premièrement, connais ce que tu gagnes. Deuxièmement, connais ce que tu dois. Troisièmement, connais ce que tu as. Quatrièmement, connais où ça va. Très simple. Connais ce que tu as, connais ce que tu dois, connais donc ce que tu gagnes et connais où ça part. C'est important. Imagine dans un couple, lorsque la femme ou le mari fait les comptes et qu'un des deux n'est vraiment pas au courant. Le mari va faire par exemple les comptes et la femme ne connaît pas du tout où ça en est. Elle ne connaît pas où ça va. Elle. Et quand elle va faire les courses, elle bombarde le budget. Par exemple. Et après, elle arrive et dit, ben, moi, je ne savais pas qu'il manquait de sous. Et donc, il est important que le mari et la femme s'accordent sur ce premier point qui est de savoir le tableau de score. Connais tes dépenses. Connais ce que tu gagnes, ce que tu dois, ce que tu as et où ça va. C'est exactement ce genre de question. Si tu veux un prêt à la banque, c'est le genre de question que la banque va te poser. Combien vous gagnez, monsieur? Quel est votre salaire? Combien vous dépensez par mois? Quel prêt vous voulez faire? Dans quel but? Il veut savoir où ça va. Parce que c'est des principes très simples. Utilise le temps que tu prends à t'inquiéter pour le manque de sous à noter où ça part, comment ça rentre et comment ça part. Si tu prends du temps pour noter où ça part, tu t'inquiéteras un petit peu moins déjà. Amen. Vous savez, une émission de télé, écoutez bien ça, a montré que il y a des gens qui malheureusement souffrent d'une obésité sévère. Et lorsque les docteurs leur disent « Est-ce que vous êtes sûr que vous ne mangez rien chez vous ?» Ils disent « Je suis sûr. Franchement, je ne mange rien, je ne perds pas de kilos. Pourtant, je ne mange pas plus qu'avant. J'essaie de faire le régime que vous m'avez conseillé. Je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. » Et les médecins étaient un peu sceptiques. Donc, ils ont fait une étude avec certaines personnes volontaires en disant « Écoute, comme tu sais pas que tu me dis que avec ta bonne volonté que tu sais pas pourquoi tu perds pas de poids, je vais mettre une caméra dans ta maison et je vais filmer ton frigidaire. » Et certaines personnes ont accepté. Et ces personnes qui disaient qu'ils ne savent pas pourquoi ils ne perdent pas de poids parce qu'ils pensent pas manger plus, ouvraient le frigidaire au moins 100 fois par jour. En exagérant un petit peu. Et quand on leur demandait ben pourquoi on regardait les vidéos, pourquoi vous dites que vous ne mangez pas, ils disaient ben, quand je suis chez moi, c'est inconscient. Je ne fais même pas attention. C'est tellement une habitude que j'ouvre, je prends, je bois, je ferme. Et j'ai même pas fait gaffe que j'ai ouvert le frigidaire pour manger. Ça vous arrive, ça? Oui ou non? Je pense que ça arrive à tout le monde. Et si vous préférez, avec l'argent, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on n'aide pas, on l'utilise et à la fin de mois, on se dit « Mais où c'est passé ?» Franchement, pourtant j'ai compté. Il me semble que je n'ai pas utilisé plus que d'habitude. Bizarre que j'ai moins ce mois-ci que le mois dernier. Je n'ai pas fait de plus grosses dépenses. Et si tu vérifies bien dans le mois, tu as dû acheter un nouveau truc, tu as dû faire des choses. Mais si on ne note pas, on ne voit pas. Donc ça, c'est le premier principe. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, 12, « Car si la promptitude à donner existe, elle est agréable envers ce que l'on a et non ce que l'on n'a pas. » D'accord ? Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, planifie tes dépenses. D'abord, note, pour ne pas oublier, parce que souvent, on utilise l'argent de manière inconsciente. On fait des dépenses inconsciemment. Et deuxièmement, note, planifie tes dépenses. Cette fois-ci, on ne regarde pas uniquement le tableau de score pendant le mois. Avant de commencer, prépare une stratégie. Planifie tes dépenses. Proverbe 21,5 nous dit « Les projets, les plans de celui qui est diligent produisent l'abondance. Mais tout homme étourdi tombe dans la pauvreté. » Waouh ! La Bible dit ici « Planifie ». Et celui qui planifie, il est diligent, ça va produire l'abondance. Mais l'homme qui est étourdi, il se dit qu'il n'est pas là avec ça, tombe dans la pauvreté. Celui qui ne planifie pas et qui est étourdi, tombe dans la pauvreté. La Bible dit planifie, fais des projets. Cela va te protéger des dépenses impulsives. Voilà ce que ça veut dire. Ça va te protéger des dépenses impulsives. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains maris ici, mais ça m'est déjà arrivé moi-même, et en tout cas, je connais certains maris que ça arrive encore parfois. Si leur femme leur donne une liste de courses pour aller faire les courses, le mari va dire « Ok chérie, merci ». Et parfois, le mari revient à la maison et il n'y a rien de ce qui est sur la liste qui a été pris. Et il revient avec des produits qu'il a trouvé cool. Et quand la femme lui dit tu as acheté ça, tu fais ah, j'ai oublié. Et pourquoi tu as pris ça? Je pensais à mon petit garçon, je trouvais ça cool pour lui. Et pourquoi tu as pris ça? Ça c'est bon ça. Ça vous est déjà arrivé ça? Je crois qu'un bon test à tous, c'est on nous donne à chacun d'entre nous, homme ou femme, une liste de courses et on dit achète ça, ça, ça et ça. Et on fait oui, merci. Et tu reviens en plus de ça, ça et ça. Tu as acheté ça. C'est en promotion. Ben, j'ai gagné un peu sur le mois suivant. Parce que le mois suivant, c'est peut-être pas en promotion. Et malheureusement, on est tous comme ça. Et là, on a planifié nos dépenses. Hein. On te donne une liste et tu te dis, bon, avec la liste, si la femme fait le budget, elle fait la liste, elle dit, avec ça, ça fera 30 euros. Et quand tu arrives, ça m'est arrivé souvent avec Sandrine, elle me dit, combien ça fait? Oh, ben 50 euros. Ben pourquoi ça fait 50 euros? Ben j'ai pris ça en plus. Elle me dit, bon, on n'avait pas besoin. Ah bon? J'ai trouvé qu'on avait besoin. Du coup, elle préfère faire les courses elle-même. Et quand j'arrive, quand je vais faire les courses, elle me dit « Pourquoi tu as pris tout ce temps ?» Par la grâce de Dieu, ma précieuse femme, elle est hyper rapide. C'est Lucky Luke. Qu'elle fait les courses. Elle dit que moi, elle m'envoie faire les courses. Je dis « Je vais voir quelle nouveauté il y a. » Enfin, tous les maris sont comme ça. Il y en a qui ne veulent même pas aller au magasin. Et le but, ce n'est pas de savoir si tu aimes aller au magasin ou pas. Si tu as planifié un budget, essaie de rester sur la liste. Donne-toi une marge de 10%. Je plaisante. 10% de moins. Frères et sœurs, il est tellement facile de tomber aujourd'hui dans les dettes avec le crédit facile. Tu arrives et tu ne veux pas acheter, et puis le gars te dit « Paye trois fois sans frais !» Là, tu fais un calcul, tu fais « Pas d'intérêt, trois fois sans frais, génial !» Sinon, paye aujourd'hui. Non, apprends aujourd'hui et paye l'année prochaine. Prends aujourd'hui et paye dans 10 ans. Prends aujourd'hui et paye pas du tout. Ça n'existe pas encore, ça, par contre. Ça existe. Faudrait essayer de leur dire de faire ça. Mais ça n'existe pas. Il te dit, prends aujourd'hui et paye dans 3 mois. Et là, tu fais ton calcul. Si je prends aujourd'hui, ça affecte pas mon budget. Dans 1 mois, ça affecte pas mon budget. Dans 2 mois, ça affecte pas mon budget. Mais dans 3 mois, j'ai oublié ça, moi. Et là, tu vois le relevé de compte, tu te dis, c'est quoi cette dépense-là? J'ai pas pris ça, moi, ce mois-ci. Et puis tu te rappelles du gentil commercial. 3 mois sans frais. Et les 3 mois sont passés. Et combien de personnes, de couples sans dette, pas en dette, hein, pour ceux qui veulent manger des insectes. Combien de couples sans dette avec le crédit facile et se retrouvent pris après. Et imaginons pas si c'est une habitude qui développe ça constamment. Et après, c'est dette sur dette, c'est le couple sous pression, il n'y a plus de finances, c'est... Donc on a construit une maison parce qu'on voulait être bien et on se met tellement sur un gros crédit qu'on gagne même plus payer la maison. Et le couple qui pensait avoir une maison pour être bien n'est pas bien dans la maison dans laquelle ils pensaient être bien. Parce qu'ils n'ont plus de sous pour eux-mêmes. Et ils ont perdu la paix. Ils ont construit une maison pour soi-disant avoir la paix. Et ils sont dans la maison et les finances qui sont volées à cause du crédit leur volent la paix. Vous connaissez des gens comme ça ? Malheureusement, je ne dis pas que ce n'est pas bien de ne pas avoir de maison. Il est très bien d'avoir sa propre maison. Ayez votre propre maison par la grâce de Dieu. Moi, j'ai la mienne. Elle n'est pas encore réalisée dans le naturel, mais elle est déjà là, dans l'esprit. Mais je connais des amis qui leur projet après la faculté, c'était objectif, construire une maison. C'est la priorité. C'est mon petit chez moi, ça c'est important. Pour que le couple soit stable. Et quelques années après, je les rencontre, je dis alors, super baraque au départ. Je dis alors, comment vous allez? Ben, en ce moment, tu sais, on n'est plus ensemble. C'est dur. C'est triste. C'est malheureux. Pourquoi? Parce que ce sujet-là, il est délicat. Les finances, encore une fois, ce n'est pas le sujet olé olé où on fait tous « Amen !» Mais c'est nécessaire. Parce qu'il faut qu'on en parle. C'est un outil dont on doit s'en servir si on veut être heureux. Le verset d'Ecclésiaste 10, quand il parle à partager aux offrandes, est puissant. Ça contribue effectivement à s'épanouir. Mais si on a un mauvais rapport avec l'argent, ça peut contribuer aussi à détruire et pas à s'épanouir. Et Dieu veut pas que ce soit comme ça pour nous. Proverbe 21:20 nous dit « Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » L'homme insensé, c'est celui qui ne prévoit pas, qui ne planifie pas. L'autre mot pour planifier s'appelle « budget ». Répète après moi. Dis budget. Pas la compagnie de location budget, hein. Mais budgétise. Dis pas simplement je vis par la foi. C'est bien ça. Mais budgétise aussi. C'est important. Planifie tes dépenses. En réalité, le budget te permet de diriger tes sous là où tu veux qu'ils se dirigent. Le budget te permet de diriger tes sous là où tu veux qu'ils se dirigent. Quelques conseils pratiques à ce sujet. Mettez-vous d'accord entre mari et femme. Discutez et priez ensemble à ce sujet. Quelles limites? Pour quel achat? Vous faites un budget? Pour quel but? Des buts pour donner, des buts pour épargner, des buts pour dépenser, des buts pour investir. Cherchez la sagesse de Dieu. Demandez à Dieu sa sagesse, qui donne à celui qui croit et qui veut recevoir avec foi. La Bible dit que la richesse et l'argent viennent de Dieu. Tout vient de lui. Appliquez-vous à faire ce que vous avez écrit. Mais budgétisez. Il faut que ton budget ait un but. Il faut que tu aies des buts pour progresser, pour payer ce que tu dois. Il faut que tu aies des buts pour tes besoins, pour étendre le royaume de Dieu, pour épargner. Fais-toi des buts pour placer et diriger ton argent là où tu veux que tes sous aillent. Troisième point maintenant, un point crucial. Apprécie ce que tu as. Ça, c'est important. Apprécie ce que tu as. Proverbe 15, 16, 17. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Waouh! De quoi on parle ici? On parle ici de contentement. La Bible est claire. Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec des disputes, des querelles, des divorces et de la haine. En créole, le verset 17 dit « Mieux vaut manger des bread chouchine. » C'est écrit mieux vaut de l'herbe. L'herbe, c'est pas l'herbe qui fume, là. Ça parle de salade. Ça parle de bread pays. Bread chouchou. En réalité, la Bible dit mieux vaut manger un bon fricassé bread chouchou. C'est bon, ça? Un casse frit. C'est bon. Là où règne l'amour, que de manger de boucané, engraissé, entrelardé, s'il y a de la haine. Le filet de porc, c'est bon pour la santé. C'est mon ami Bruno, s'il écoute le message, hein, c'est bien. Alors, frères et sœurs, ça parle ici de contentement. Sois content de ce que tu as. Apprécie la vie là où tu es. C'est quoi le contentement? C'est vivre là où tu es avec ce que tu as. Peu ou beaucoup, apprécie. Tu n'as pas d'argent pour acheter de bœuf engraissé? Mange des breads. Et fais en sorte que l'amour règne. Vous savez, le contentement est un principe important. Balou dans Walt Disney nous a fait une chanson. Vous connaissez la chanson de Balou pour ceux qui ont des enfants? Qui disent « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre vie tous vos soucis. Youpi! Prenez la vie du bon côté. Riez, dansez et chantez. Papa, 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 papa. » Vous ne savez pas ça? J'ai entendu cette chanson-là, j'ai dit, t'es gros sous-ours, là, elle est content. Que j'ai entendu la chanson de Balou à Disney, j'ai dit, ils ont compris le contentement. Et la chanson, s'il en faut peu, pour être heureux. C'est vrai. Elle est magnifique, cette petite chanson. Et elle groove. Ouais, c'est vrai, ça passe pas avec le piano que Laurent est en train de faire, etc. Le rendu groovy avec ma papa. Ça va venir, Laurent, ça va venir. Vous C'est ça, c'est ça. Essayez d'être content. Après, regarde ton voisin et dis-lui, apprécie ce que tu as aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, le problème, c'est que c'est bon d'avoir des buts, et il faut avoir des buts. Mais parfois, on est tellement omnibulé avec ce qu'on n'a pas, que ce qu'on n'a pas enlève notre joie et on oublie ce qu'on a. Ne dis pas, lorsque j'aurai une grande maison, alors je pourrai inviter mes amis à un barbecue. Mais dans mon appartement, la fumée va monter, ça va noircir le toit. Ben fais un gratin. Et invite tes amis. Apprécie ce que tu as maintenant. Ne dis pas quand j'aurai une maison, je serai mieux dans ma vie de couple. C'est faux. C'est faux. Ne dis pas si j'avais ceci, je serais plus heureux. Si j'étais comme Darlene Zech, alors je serais vraiment dans mon appel, rempli de joie. Mais aujourd'hui, je suis comme Darlene Sec. Ne dis pas si. Dis pas, tu sais, aujourd'hui, je suis dans les dettes. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je serai heureux. C'est faux! Ça va t'aider à sortir tes dettes, ça va éliminer la pression en partie, et c'est bien. Que Dieu soit loué. Élimine cette pression-là. Mais apprécie aujourd'hui ce que tu as. Là où règne l'amour, et là est la joie. Là est le contentement. Ne dis pas quand j'aurai ceci ou si j'aurai ceci. Et la Bible dit apprécie aujourd'hui. Cherche l'amour. Ne confonds pas contentement et satisfaction. C'est important. Ne dis pas, si tu n'as rien, je suis satisfait de rien avoir. C'est pas le but non plus. Il faut pas confondre les deux. Il faut des buts. Il faut travailler. Tu es sous la pression des dettes et tu manques de moyens, reste pas dans cette situation-là. Planifie, note tes dépenses, crée un budget, cherche de l'aide. Mais par contre, ne laisse pas le manque de finances amener le trouble. Parce que vaut mieux manger un peu de bread, là où règne l'amour, que manger steak de bœuf à la chinoise, là où règne la dispute. Donc le plus important en réalité, ce n'est pas d'avoir beaucoup, c'est aussi de savoir se contenter. Ne dis pas je serai heureux quand, et ne dis pas je serai heureux si. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Jésus dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Jésus dit heureux ceux. Il parle de comportement. Il parle ici d'attitude. Qu'est-ce que Dieu veut dire ? L'argent ne crée pas le bonheur ou le malheur. C'est ton état de cœur qui fait la différence. C'est ça la clé. Heureux ceux. Vous savez, le pauvre s'inquiète de gagner plus. Le riche s'inquiète de garder plus. Il veut moins dépenser, lui. Les deux s'inquiètent. Et Salomon donne un remède à cela. Il dit, sois content. Contente-toi. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste prêchait la bonne nouvelle du royaume, il y a des publicains qui viennent le voir, le peuple vient le voir, il y a des soldats qui viennent le voir. Et ils disent, mais que devons-nous faire pour être sauvés ? Dans Luc chapitre 3. Et Jean-Baptiste dit aux soldats, contentez-vous de votre solde. Il ne dit pas, vous voulez être sauvés ? Priez plus. Vous voulez être sauvés ? Jeûnez. Vous voulez être sauvés ? Ayez la foi. Vous voulez être sauvés ? Oh, prie minimum 5 heures par jour. Vous voulez être sauvé et tu dis beaucoup la parole de Dieu. Jean-Baptiste dit même pas ça. Il dit, vous voulez être sauvé, contentez-vous de votre solde. Lisez Luc 3, 10. Il ramène la pensée des cœurs sur le contentement. Et parfois, l'Église, on oublie ça. Oh, quand je serai comme l'apôtre Paul, quand je serai comme l'apôtre Pierre, oh, quand je serai le prophète des nations, oh, quand... Et tu n'apprécies pas aujourd'hui. Quand mon couple sera mature, là, je serai heureux. Commence à être heureux maintenant et il deviendra mature. C'est ce que Dieu veut. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Peut-être que tu pleures pour ton couple aujourd'hui. Mais Jésus dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est un état de cœur. Vous savez, les gens parfois, certains businessmen par exemple, travaillent tellement dur à s'enrichir, ils pensent tellement à faire plus d'argent que leur couple ou leur famille en pâtissent. Et ils pensent se dire, quand j'aurai plus d'argent, je m'arrêterai. C'est faux. Ils ne s'arrêtent pas. Quand ils ont plus d'argent, ils prennent plus de temps pour gérer le plus d'argent qu'ils ont. Si un couple pour produire plus d'argent se met parce que le mari va travailler plus ou la femme va travailler plus, se met sous pression, alors ça veut dire que ce couple-là n'est pas prêt à faire plus d'argent. Pour faire plus d'argent, ne laisse pas l'ennemi faire naître des rivalités, la paix et les querelles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire plus d'argent. Je suis en train de vous rappeler qu'il faut savoir se contenter. Pour faire plus d'argent, ne détruis pas la paix. Pour faire plus d'argent, ne détruis pas la joie. Vous comprenez? Parce que la paix et la joie vaut bien plus que l'argent. Ça ne s'achète pas. Donc si un couple se donne comme objectif de se faire plus d'argent, mais si c'est pour se détruire, attends un peu et deviens plus mature. Et attends une saison où le couple va être plus fort pour faire plus d'argent. Amen. De combien d'argent as-tu besoin pour être heureux? Si tu as des problèmes d'argent, plus d'argent résout ton problème en partie. Lorsqu'il y a des problèmes de comportement liés à l'argent, la façon de dépenser, mauvais budget, mauvaise habitude d'achat avec précipitation, etc., plus d'argent ne fera qu'accentuer le problème. Va régler le problème en partie. Parce qu'encore une fois, l'argent ne crée pas le bonheur ou le malheur, mais c'est notre état de cœur. L'argent n'est pas le problème, c'est notre rapport à l'argent qui est le problème. Point numéro 4, un point crucial. Partage avec les autres. Partage avec les autres. Merci pour les 2-3 amen. Ça, Jésus a dit, il y a plus de plaisir de donner que de recevoir. Ça, c'est la clé. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libérablement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Waouh! Ici, le verset là, écoutez bien mes chers frères et sœurs. Le verset ne dit pas « fais un petit peu de charité pour être bien ». C'est pas ce que ce verset-là dit. Quand la Bible dit « celui qui arrose sera lui-même arrosé », ici, Dieu est en train de nous donner la stratégie pour faire de l'argent. Pas eu d'amen. Parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tel donne libérablement, devient plus riche. Nous dit le verset 24. C'est ce que Dieu veut dire. Il est en train de dire, si tu donnes avec sagesse et avec libéralité, que tu le fais, alors tu deviens plus riche. C'est ce que Dieu veut dire ici. Ce n'est pas seulement de la charité, mais une façon de faire de la monnaie. Proverbe 19, verset 17. Quel verset profond et extraordinaire. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Le bon mot pour lui rendra signifie qu'il lui remboursera. Je sais pas toi, mais avec Wall Street, jeudi noir, la crise, la banque peut faire faillite. Mais Dieu ne fera pas faillite. Et si la banque ne peut pas te rembourser, mais que Dieu dit lui, il te rembourse. Je ne sais pas toi où tu préfères mettre ta foi. Mais moi, je préfère mettre ma foi en Dieu. Qui dit, si tu prêtes à celui qui est dans le besoin, à celui qui est en manque, il te remboursera. Donc si vous désirez aider potentiel, il te remboursera, nous dit la parole de Dieu. Ça parle de générosité, de libéralité. Dieu te remboursera. C'est profond. Hébreux 13, 16 nous dit, et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à partir de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La libéralité, lorsque tu es prêt à donner, lorsque tu donnes quelque chose, Dieu aime ça. Quand, on a déjà vu, tout le temps on le dit lors des offrandes, celui qui aime, donne. Jean 3, 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. On peut donner sans aucun amour. C'est platonique, tu donnes par habitude, pour bonne conscience, parce que tu as trop, tu donnes. Mais celui qui aime, donne. Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Si tu aimes tes enfants, tu donnes à tes enfants. Oui ou non? Celui qui aime, donne. Dieu nous a tellement aimés et il nous aime tellement qu'il a donné son Fils bien-aimé. Qu'il nous a donné l'intendance de toutes choses qu'il a faites sur terre. Tellement il nous aime. Je comprends que on peut être dans des situations tellement difficiles parfois qu'on a l'impression qu'on ne peut rien donner. Mais je t'encourage, si tu n'as rien, essaie de donner quand même. Pas de l'argent forcément. Donne un meuble, donne un tableau, donne un gâteau, donne un carry, donne du temps, donne quelque chose. Sème. Dieu donne de la semence au semeur. Pas au moissonneur, pas au récolteur. Il donne de la semence au semeur. C'est un privilège de donner. C'est une grâce de donner. Il aime la libéralité. Plus quelqu'un donne, plus il ressemble à Jésus. C'est ce que Dieu veut. Qu'il dit donne avec libéralité. Tu n'as pas de sous, donne quelque chose. Sème. Cherche une semence pour semer. Parfois, je le crois que certains miracles que vous devez recevoir pour certains d'entre vous sont bloqués parce que Dieu attend une semence pour débloquer le miracle. Parfois, entre le miracle et nous, il y a une semence qui doit être débloquée. Et un amen aurait été bon pour ceux qui croient. Et encore une fois, je ne parle pas forcément d'argent. Je parle, quand on parle de donner la parole de Dieu, c'est Dieu te demande pas ton argent, Dieu te demande ta vie, mon ami. Je ne sais pas si tu valorises l'argent plus que ta propre vie, mais qu'est-ce qui coûte le plus, donner sa vie ou donner de l'argent, d'après vous? Et c'est ce que Dieu veut dire. Une semence peut débloquer le miracle. Et on oublie ça. Partage avec les autres. Partage avec les autres. Donne. Quand c'est des moments difficiles, cherche ce que Dieu veut que tu donnes. Peut-être des vêtements à quelqu'un. Peut-être un beau t-shirt ou une magnifique veste que tu as. Tu aimes tellement cette veste que quand tu vas donner, ça va te coûter. Parce que tu as envie de la garder pour toi. Et Dieu te dit, donne. Seigneur, sans mon soulier. Il court vite avec. Et Dieu dit, oui, mais ton frère là-bas, il n'a pas, donne. C'est dur. Comment me racheter dans les dettes? Donne. Sème une semence. Dieu donne la semence au semeur. Dernier point, rapidement. Pour que les couples reçoivent des principes. Premier point, on a vu note tout. Deuxième point, on a vu planifie tout. Troisième point, on a vu sois content. Quatrième point, on a vu partage avec les autres. Sois généreux. Deviens un donateur. Cinquième point et dernier point, apprends à donner ta dîme. Alors ça, en général, c'est un sujet très délicat. Là encore, personne n'est obligé de donner. Mais le cœur généreux ne va même pas chercher à donner la dîme, comme je vous disais. Il va chercher à être généreux. Mais la dîme est en réalité un standard de base. La dîme et l'offrande. Vous savez, quand quelqu'un est généreux, parler de la dîme, ça ne le gêne vraiment pas. Quand quelqu'un aime donner. Quand quelqu'un n'aime pas donner, alors le cinquième point là, c'est celui qui va le moins aimer dans mon message de ce matin. Parce que le cœur va commencer à faire « Attends, là moi je n'ai pas d'accord quand même. Ça c'est l'Ancien Testament, ça n'est pas bon. Personne t'oblige, mon frère et ma sœur. Mais tu vas voir quelques principes sur la parole de Dieu. » Et libre à toi, entre toi et Dieu, de vérifier après si ce que la parole de Dieu dit est vrai ou pas. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. La Bible dit, Dieu dit, donne-moi les premiers fruits de ton travail. Fais-moi passer en premier et je te bénirai. C'est un principe spirituel. Dieu dit, donne d'abord. Ce verset au proverbe 9 est accompagné de cette promesse au verset 10. Alors, si tu mets Dieu en premier, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Vous savez, il y a une sœur ici parmi nous. Elle était dans les dettes que je ne savais pas en début d'année. Et lors de l'école biblique, vous savez qu'il y a des étudiants qui n'ont pas les moyens. Et on met en place un système de sponsoring, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui font l'école biblique ou qui ne font pas, qui payent pour d'autres personnes. Et au milieu de l'année, cette précieuse sœur vient voir le trésorier de l'école biblique et lui dit « Excuse-moi, je ne peux pas continuer à payer, j'aurai du retard parce que j'ai des dettes et je suis dans la galère financière. » Et à ma grande surprise, je dis « Si tu es dans les dettes, fallait pas sponsoriser. C'était te mettre plus le couperet à la gorge. » Mais son cœur, c'était « J'aime Dieu et je veux aider quelqu'un. » Et elle était triste, elle était en pleurs parce qu'elle avait beaucoup de dettes. Et au bout de quelques mois plus tard, bon, après 2 mois, dès qu'elle a reçu un peu, elle payait ses dettes et elle est venue bénir et payer pour le frère et la sœur pour l'école biblique. Et au bout de quelques mois, elle revient me voir avec un sourire tranche papaye. Et là, elle me dit, j'ai plus de dettes. J'ai plus de dettes. Je fais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, je sais pas. Je dis, tu dois connaître quand même. Je dis, oui, il y a des sous qui sont arrivés sur mon compte. Après, elle m'a expliqué, c'est trop compliqué, il faudrait voir cette sœur que je préfère préserver le nom, pour me dire que le montant de dettes qu'elle devait, les sous sont arrivés sur son compte par pour le même montant. Et cette sœur-là, comme elle me fait penser à la veuve dans la parole de Dieu, où dit beaucoup donnent de leur superflu, mais elle, pour bénir quelqu'un d'autre, elle a donné de son nécessaire. Ça, c'est pas la dîme, ça? Ça, ça te coûte. Ça, c'est plus que la dîme. Ça, si tu donnes, là, tu donnes, tu te sacrifies par amour pour quelqu'un que tu connais même pas qui tu vas financer. Mais par amour pour Dieu, tu dis dans les dettes ou pas, Seigneur, c'est mon pas de foi pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? A éradiqué ses dettes dans l'année. Or, qu'on vienne pas me dire que la dîme et l'offrande qu'on donne, ça ne marche pas. Mets Dieu au défi et tu verras. Il y a plein de témoignages comme ça. dans ma propre vie comme dans la vie de ceux qui m'entourent. Celui et celle qui comprend que la dîme et l'offrande, c'est la base. Tu ne cherches pas à donner la base. Après, tu donnes ce qui te coûte vraiment, comme cette sœur. Tu dis, comment je peux faire pour faire avancer le royaume de Dieu? Comment je peux faire pour aider des pauvres encore plus ce mois-ci? Qui sont des pauvres dans les frères et sœurs? Qu'est-ce que je peux faire, un repas peut-être? Parce que je n'ai pas assez de sous. Je peux donner un petit truc, un gâteau. Qu'est-ce que je peux faire? Un moment de prière. Mais tu disciplines ta vie et tu deviens quelqu'un qui est généreux et qui donne quelque chose. Tu donnes du temps dans la prière. Lorsque l'on met Dieu en premier dans nos voies, Dieu ouvre les écluses du ciel. Et pour tous ceux et celles qui croient que la dîme, c'est pas dans le Nouveau Testament, je vais vous lire un verset qui cogne, qui frappe, qui fracasse dur, coup de marteau blindé. Hébreux 7, verset 7. Or, sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Et ceci, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté, c'est celui qui est vivant. En réalité, le mot dit, la Bible dit, ici, ce sont des hommes mortels qui prélèvent la dîme. Mais là, il est attesté que celui qui reçoit, il est vivant. Quand vous lisez Hébreux, chapitre 7, on parle du sacrificateur qui s'appelle Melchizedek, qui est roi de Salem et roi de justice. Et ici, l'apôtre qui écrit le livre aux Hébreux dit que Melchizedek, en réalité, c'est Jésus-Christ. Et il dit ici, Abraham a donné la dîme à Melchizedek. Mais il faut savoir que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Si Abraham donne sa dîme à Melchizedek, lui, l'inférieur, est béni par Melchizedek, le supérieur. Et la Bible dit, oui, mais Abraham, il nous faut comprendre que dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez, c'est les Lévites, le peuple donnait la dîme aux Lévites. Mais ici, il est dit qu'en parlant des Lévites, ceux-là sont des hommes mortels. Mais là, il est attesté que celui qui reçoit, il est vivant. Si tu manques de foi, mon ami, va relire le verset. La parole de Dieu est claire. Mais là, il est attesté que celui qui reçoit, il est vivant. Selon l'ordre de Melchizedek, qui représente Christ, qui est Christ lui-même. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, l'Ancien Testament, en réalité, l'Ancienne Alliance ne commence pas dans la Genèse. L'Ancienne Alliance commence avec Moïse, quand Moïse a versé le sang. Mais ici, on n'est pas dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il y a Melchizedek. On est dans l'Ancien Testament. Vous savez, le Nouveau Testament commence pas par un Matthieu. Le Nouveau Testament commence à la croix, lorsque Jésus a versé son sang, à la fin de l'Évangile. C'est ça la Nouvelle Alliance. Et on doit comprendre ces principes-là. Donc lorsqu'on dit que la dîme c'est la loi, c'est faux. La dîme c'est un principe spirituel pour celui qui reconnaît Jésus-Christ comme son roi de paix et son roi de justice. Lui qui est selon l'ordre de Melchizedek et qui est vivant. Et qui est un citoyen du royaume de Dieu et qui par amour donne à son roi. Pourquoi ? Parce que la dîme remplit trois objectifs. Premièrement, elle montre notre reconnaissance pour ce qu'il a fait par le passé. Deuxièmement, elle garde à notre conscience, notre connaissance, que Dieu doit être le premier dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas pour rendre Dieu plus riche, mais c'est pour que nous puissions éprouver nous-mêmes notre cœur. La dîme éprouve notre cœur, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La dîme éprouve notre cœur. La Bible dit « Éprouvez-vous vous-même pour voir où est votre foi, si vous êtes dans la foi ou pas ». Et dans Deutéronome 14, qu'on ne va pas lire pour aller plus vite, la Bible dit qu'il avait donné la dîme aux Lévites pour qu'ils apprennent à craindre Dieu. Deutéronome 14, verset 23. Pour qu'ils apprennent à craindre Dieu. C'était le but. Donc le fait, c'est quoi? Aujourd'hui, pareil. Si tu veux apprendre la crainte de Dieu, teste ta propre foi avec la dîme chaque mois. pour ma part, frères et sœurs bien-aimés, avec tout le respect que je vous dois, non pas pour se vanter, loin de là. J'aime pas parler de ce genre de choses-là. Vous devez comprendre qu'en tant que pasteur d'église, pasteur Bruno et moi-même, on donne plus que la dîme. C'est pas notre cœur de juste donner la dîme. Avec nos épouses, lorsqu'on reçoit un don, que ce soit même une CAF pour les enfants, la dîme par-dessus. Mais la dîme, c'est rien. Ça teste le cœur. Ça montre vraiment où tu es. À l'église, comme vous connaissez, on a un commissaire aux comptes. Et je disais au commissaire aux comptes qu'il vérifiait, donc il pouvait savoir si ce que je lui disais est vrai et si je donnais ou pas. Je donne toujours par chèque, non pas parce que je veux être remboursé, parce qu'au moins il y a une trace. Et qu'on ne peut pas dire que les pasteurs à Hosanna ne donnent pas. Et mon cœur n'est pas de rester à la dîme. Pour faire avancer le royaume de Dieu, ce n'est pas 10%, c'est 50% que je rêve de donner. Et pour ça, il faut savoir bien vivre avec 50. Il faut aussi avoir plus de moyens. Je ne suis pas encore arrivé. Mais ça va venir. Troisième point, la dîme, c'est aussi un pas de foi pour le futur. Dieu est tellement radical à ce sujet qu'il dit à son peuple, dans Malachie 3, de le tester. Il dit, Malachie 3, 8, « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites, quoi ? En quoi t'avons-nous trompé ? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappé de malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est pas dans toute la parole de Dieu que Dieu dit « teste-moi ». Jésus lui-même l'a dit « tu ne testeras pas le Seigneur ton Dieu ». Mais ici, pour le cadre de la dîme et des finances, Dieu dit « teste ». Alors il appartient à chacun d'entre nous, par la foi que nous pouvons avoir, de mettre Dieu à l'épreuve. C'est entre vous et Dieu. En personne ne va vous contrôler. Mais si un couple veut sortir de la pression financière, un, note tout ce qui sort et ce qui rentre. Deux, apprends, fais l'habitude de faire un budget pour planifier tes ressources. Trois, sois content là où tu es. Si aujourd'hui c'est dur, apprends à te contenter. Malgré tout, apprécie la vie avec un peu de bread, un peu de fricassé. Quatre, la parole de Dieu dit, sois généreux, donne aux pauvres, partage. Cinq, mets Dieu à l'épreuve. Teste-le sur la dîme. Et la foi. Vous savez, c'est arrivé dans ma propre vie, je terminerai là-dessus, d'avoir vraiment pas assez à manger. Il faut comprendre, pour ceux qui ne me connaissent pas, que pour servir le Seigneur, j'ai quitté mon travail. Et je n'ai pas commencé au SMIC, moi. J'ai commencé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et j'avais un bon travail, avec un gros salaire. Par la grâce de Dieu, parce que j'ai pas mal de diplômes. Et j'avais un bon travail. Mais lorsque j'ai servi Dieu, lorsque j'ai quitté mon travail, je n'avais plus le salaire. Il faut toujours payer la voiture, il faut toujours payer les impôts, il faut toujours payer les frais, il faut toujours payer ce que tu as. Mais jamais, par la grâce de Dieu, que Dieu me préserve, ma femme et moi-même, j'ai tiré sur la dîme pour payer ce que je dois. Je tire sur les courses, sur mes besoins. Je dors sur un matelas. Mais Dieu a toujours été fidèle. Dieu a toujours béni. Dieu a toujours pourvu. Teste, nous dit le Seigneur. Mets-le à l'épreuve. Comme cette sœur qui parle que ses dettes étaient éradiquées. Parce qu'elle a mis Dieu à l'épreuve. Et elle est sortie des dettes. Cher couple, chère famille, ne soyez pas ignorants au sujet de l'argent. Gardez la paix. Gardez la joie entre vous. Amen. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs.